La méthode bioclimatique a été mise au point par un botaniste montpelliérain qui a passé une grande partie de sa carrière au Maroc, Louis Amberger. Elle a été poursuivie par ses élèves, notamment Camille Sauvage, et puis perfectionnée par l'introduction de la phytosociologie par notamment Marcel Guinochet. Donc Louis Amberger s'est rendu compte qu'en positionnant des postes climatiques dont on connaissait la végétation potentielle. La végétation potentielle, c'est donc la végétation, on dit aussi végétation climatique, c'est la végétation qui s'installe en un endroit donné quand l'homme n'intervient plus suffisamment longtemps pour que la végétation soit stabilisée. C'est ça la végétation potentielle. Donc quand on positionne sur un diagramme climatique avec en abscisse le paramètre en gros pluviométrie, c'est un quotient pluviothermique, il tenait compte aussi de l'évaporation, donc c'est un quotient numérateur pluviométrie annuelle, au dénominateur un produit de deux facteurs, température et écart entre température du mois le plus chaud et du mois le plus froid, ce sont deux facteurs qui conditionnent l'évaporation. Et en ordonnée, le paramètre, lui, il utilisait la température de l'hiver, plus exactement la moyenne du mois le plus froid, mais c'est corrélé avec la température de l'hiver. Et il s'est aperçu que s'il affectait par exemple les postes climatiques d'une pastille de couleur correspondant à la végétation, ces pastilles de couleur dessinaient des bandes colorées perpendiculaires, à peu près perpendiculaires, à l'axe des abscisses, c'est-à-dire à l'axe corrélé avec le paramètre arido-humidité. Il travaillait au Maroc et s'était rendu compte aussi qu'avec sur son climagramme, si on se mêlait d'introduire des postes qui n'étaient pas en région méditerranéenne, comme Paris par exemple, eh bien ça ne collait plus. Paris tombait dans l'étage semi-aride ou subhumide, parce que Paris en fait est très peu arrosé. Il y a 700 mm de pluie, je crois, par an, quelque chose comme ça. Mais seulement, il n'y a pas de saison sèche, donc ce n'est pas un climat méditerranéen. Donc il avait bien recommandé de ne pas utiliser son climagramme en dehors des postes méditerranéens. Et moi, dans le cadre de ma thèse, j'avais besoin de mettre sur un même climagramme des postes méditerranéens et les postes non méditerranéens, puisque ma thèse couvrait l'espace du domaine paléarctique occidental. Disons, du point de vue des extrémités bioclimatiques, c'était depuis les toundras de l'étage alpin des Pyrénées jusqu'à la bordure nord du Sahara marocain. Donc j'ai modifié simplement le numérateur du quotient pluviothermique. J'ai introduit en plus de la pluviométrie annuelle, la pluviométrie de l'été. J'ai tâtonné et je suis arrivé à ce résultat. Je me suis rendu compte qu'en remplaçant la température de l'hiver par la température moyenne annuelle, on pouvait parfaitement expliquer la zone, montrer que la végétation non méditerranéenne était perpendiculaire cette fois à l'axe des ordonnées, dans la mesure où l'axe des ordonnées est corrélé avec la température moyenne annuelle. Sauf pour le passage de l'étage, du dernier étage de végétation arborée à l'étage qui n'est plus arboré, c'est-à-dire le subalpin à l'alpin dans les Alpes et les Pyrénées, ou la taïga à la toundra dans le nord de l'Europe. Là, c'était la température de l'été. Moi, j'ai pris la moyenne du mois le plus chaud. Je ne l'ai pas inventé, en fait, c'est dans la littérature. C'était déjà connu que c'est lorsque la température moyenne de l'été devient inférieur à 10 degrés que les arbres ne peuvent plus vivre. Voilà, donc voilà le principe de la méthode bioclimatique. Donc Amberger a utilisé le terme de étage de végétation en disant bien que étage, ce n'est pas seulement un étagement altitudinal, c'est aussi un étagement latitudinal. C'est, dans son esprit, ça indique un degré de froid ou un degré d'aridité. Alors donc, on voit ici sur ce climagramme que j'ai mis au point, à partir de 542 postes, dans le domaine paléarctique essentiellement, deux grandes catégories de climats, donc les climats qui sont sous la dépendance du facteur aridité, et donc en bas à gauche, E, c'est le symbole de l'étage hérémique, c'est le désert absolu, HA hyper-aride, A aride, SA semi-aride, SH subhumide. Tout ça, c'est corrélé avec des végétations repérées sur le plan de la phytosociologie. Alors la phytosociologie, c'est l'étude de... Donc il y a la flore et la végétation. C'est une méthode d'étude de la végétation qui est très utilisée, notamment pour Corinne Biotope. Hein, c'est très utilisé. Il y a un système... ça aboutit à une classification des associations végétales selon un système hiérarchisé un peu comparable à la taxinomie classique des espèces vivantes. L'autre grande catégorie, c'est les climats qui sont sous la dépendance principale de la température. C'est les climats dans lesquels la végétation ne ressent jamais de période sèche, l'existence d'une période sèche. La végétation manifeste qu'elle est dans une période sèche. Lorsqu'elle s'adapte, elle montre soit une pilosité abondante pour se protéger de l'insolation, soit les feuilles sont transformées en aiguilles pour réduire l'insolation, soit les racines se développent énormément, soit la cuticule des feuilles s'épaissit pour se protéger de l'insolation, etc. Et dans les climats qui ne montrent aucune adaptation à la sécheresse, c'est qu'elle ne ressemble à aucun moment une période de sécheresse, et à ce moment-là on constate donc sur ce climagramme que c'est la température moyenne annuelle relayée par la température de l'été pour les climats les plus froids qui renouvelle la végétation. Voici maintenant le même climagramme en haut, mais limité à la France. Plus exactement, j'ai colorié l'emprise des postes climatiques français et tous les autres, tout ce qui est en blanc, sur fond blanc, c'est hors de France. Voilà. Donc vous voyez qu'en France, on a un seul des climats qui est sous la dépendance de l'aridité, c'est le climat SH, c'est-à-dire méditerranéen subhumide, en orange, ainsi que c'est les climats intermédiaires, hein, voilà, subaxériques. Il y a les climats xériques et les climats non axériques, et puis les climats subaxériques, presque xériques, voilà. Au milieu, qui s'insinue entre les deux. Ces climats subaxériques, sur la carte et sur le climagramme, là, sont en jaune. Le climat méditerranéen en orange, c'est les chênaies vertes méditerranéennes qui se dégradent en garrigue, à romarin, sur calcaire, en maquis, sur silice, etc. Le SX en jaune, là, le subaxérique, ce sont les chênaies pubescentes qui sont bien développées dans le sud de la France, pas en région méditerranéenne, bien sûr, au nord de la région méditerranéenne. D'ailleurs, on le voit sur la carte. Et puis, en vert au-dessus, c'est l'étage des chênes à feuilles franchement caduques, chêne sessile, chêne pédonculé. On appelle l'étage collinéen, classiquement, depuis Gossen, en France. Au-dessus, en bleu clair, c'est l'étage des hêtraies sapinières de Montagnarde, qu'on retrouve d'une part en altitude dans les Pyrénées, les Alpes et le Massif central, et d'autre part en plaine en France, en Belgique et jusqu'au Danemark. Au-dessus encore, BS, c'est le subalpin, donc les forêts de conifères dans les Alpes et les Pyrénées. Dans les Pyrénées, uniquement le pin crochet, dans les Alpes, d'autres conifères associés. Et dans le Grand Nord, mais là on ne le voit pas, on est plus en France, c'est la taïga. Mais tout ça, il y a l'équivalent phytosiologique à chaque fois. Au-dessus encore, toujours en violet, mais marqué AA, ce sont les pelouses alpines, dont l'équivalent est la toundra du Grand Nord. En bas, une carte de la végétation potentielle, toujours, à l'échelle de l'Europe, mais nous, on s'intéressera spécialement à l'Europe occidentale. Au-dessus, l'étagement de la végétation dans les Pyrénées centrales et même orientales, puisque j'ai fait apparaître en orange du Méditerranéen. Alors, on revoit cette superposition, hein, en orange, la végétation méditerranéenne, au-dessus, la végétation subméditerranéenne, les chênaies pubescentes, qui sont les chênaies truffières, hein, des grands causes, par exemple, au-dessus, en vert, le collinéen, comme tout à l'heure, et on voit la même succession depuis l'Espagne. On ne distingue pas très très bien les couleurs, mais on voit qu'en France, l'orange est limité au pourtour méditerranéen, alors qu'en France, en Espagne, il occupe à peu près les trois quarts de la péninsule. Et quand on voit du jaune en Espagne, c'est parce qu'on est en altitude, dans un climat plus frais. Autrement, le jaune, le subaxérique, est dans le sud de la France. Ensuite, le vert, le bleu clair, le bleu foncé. Et les toundras arctiques, tout à fait au nord, et également sur les montagnes de la cordillère scandinave. Comment expliquer cette homologie de la végétation en altitude, de la zonation végétale en altitude et en latitude? Eh bien, on fait appel nécessairement. Donc, le climat à l'ère pendant l'ère secondaire, au début de l'ère secondaire, il y a 250 millions d'années, le climat était beaucoup plus homogène à la surface du globe que maintenant, et il était aussi beaucoup plus chaud et sec. Il était de type globalement semi-aride. Et ceci jusque vers 130 millions d'années, c'est-à-dire le Crétacé inférieur pour ceux qui connaissent. Et à partir de là, le climat va évoluer vers un climat chaud mais plus humide. Et puis à partir de 45 millions d'années, va apparaître une saison sèche de plus en plus marquée. Le climat évolue en Europe vers un climat tropical à saison sèche de plus en plus marquée. Toutes ces transformations se font jusqu'à il y a 3 millions d'années, se font d'une manière lente, insensible. Et brutalement, à partir de 3,1 millions d'années, peut-être 2,8 ou 2,4, je ne sais plus, un système se met en place, un système de glaciation. Cette phase glaciaire, au moins 6 phases glaciaires, séparées par des intermédiaires glaciaires, et vous savez qu'actuellement, on est dans un intermédiaire glaciaire. Donc voilà, à chaque fois, donc, voilà les noms des glaciations les plus connues. Il y en a deux autres. Hein. Avant Donau, il y aurait, en bas, c'est les noms, Donau, Günz, Mindel, Rieswurm. Avant, il y aurait Biber et Pré-Biber. Pré-Biber est un peu contesté, vers 3-1 million d'années, mais Biber est moins contesté. À chaque fois, le niveau des mers diminue pendant la glaciation, puisqu'une partie des précipitations qui tombent sur le globe restent bloquées sous forme solide sur les calottes glaciaires et les glaciers des montagnes. Et au contraire, quand il y a réchauffement interglaciaire, ces calottes fondent et le niveau des mers, vous voyez, peut monter. Voilà le niveau des mers actuel, zéro actuel, au-dessus, dans l'intervalle Donau-Günz, il est monté à 100 mètres plus haut que l'actuel. Voici la carte de végétation qui s'est établie en Europe occidentale pendant au maximum de froid de la dernière glaciation. En gris clair, en haut, c'est la glace, l'indentice de glace. Vous voyez que l'Irlande et l'Angleterre sont majoritairement recouvertes par la glace. En bordure sud de la glace, et la Scandinavie bien sûr, et en bordure sud de la glace, en bleu foncé, c'est la toundra. Vous voyez que la toundra descendait dans cette reconstitution jusqu'à peu près la latitude de Bordeaux. Sur cette reconstitution, j'insiste sur cette reconstitution, il y en a d'autres qui sont différentes. Sur cette reconstitution, ce qui vient en bleu clair au sud, c'est la taïga. Mais dans d'autres constitutions, on considère que la dernière période froide du Würm, il y a eu deux périodes froides, une au début, une à la fin. Celle de la fin, c'est celle-là, vers 20 000 ans, moins 20 000 ans, on considère qu'elle a peut-être été beaucoup plus sèche, et à ce moment-là, c'était une végétation, comme on voit le bistre plus à l'est, plus continental, qui remplaçait les taïgas et peut-être la toundra. Et puis, ils ont mis sur cette reconstitution, dans la partie occidentale de Libérie et au sud de Libérie, c'est ce qu'ils appellent la forêt némorale. La forêt némorale, c'est l'étage collinéen et l'étage montagnard qui ne distinguent pas. C'est l'étage des chênes, des arbres à feuilles caduques. Voilà les migrations qui se sont produites pendant la dernière phase glaciaire. Voilà l'état de la végétation ou une des reconstitutions possibles de la végétation à l'étage glaciaire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque le climat se réchauffe, on rentre dans notre période à nous, notre période interglaciaire à nous, eh bien la glace, le front de glace va reculer évidemment vers le nord. Du coup, le front de la toundra, le front méridional de la toundra, le contact toundra-taïga va le suivre, va remonter vers le nord. Le contact taïga et némoral va remonter vers le nord. Et on comprend dans ces conditions qu'il y ait une équivalence de la zonation végétale vers le nord et vers l'altitude, puisque la végétation, en remontant d'altitude, retrouvait les mêmes conditions thermiques qu'en allant vers le nord. On a parlé essentiellement, donc, sur la carte précédente, on a vu l'Inland 6, la toundra, la taïga et la forêt némorale, mais ce qui était au sud, le SX, la végétation subaxérique, et puis la végétation méditerranéenne, où est-ce que ça s'était réfugié ? Est-ce que ça avait disparu ? Eh bien, apparemment, ça n'avait pas disparu. On considère que ces végétations s'étaient réfugiées dans le sud des trois grandes péninsules, que sont l'Ibérie, l'Italie et les Balkans. Et donc on voit par exemple ici en haut à gauche, c'est la reconquête de l'Aulne à partir de ses refuges. Et on voit que l'Aulne, il est arrivé dans les Pyrénées d'une part depuis le refuge ibérique et d'autre part depuis le refuge des Balkans. Et les populations, entre-temps, avaient divergé génétiquement. Elles ont du mal à se mélanger. Ce sont des races génétiques, quelquefois des sous-espèces, quelquefois des bonnes espèces. Pour les orthoptères, on a un très bel exemple, le criquet à aile rouge, le criquet à aile bleue. À droite, ce sont des chênes, mais les chênes, on verra tout à l'heure une carte plus détaillée. On voit quand même que pour les chênes, à partir du refuge espagnol, ont pu s'étendre, cette fois ils ont pu franchir les Pyrénées et aller jusqu'en Angleterre, et ils sont rentrés en contact avec les chênes issus du refuge italien et balkanique, enfin italien, au niveau, si je lis bien, de la vallée du Rhône, à peu près. Les histoires sont très différentes d'une espèce à l'autre. En dessous à gauche, c'est le hêtre. Alors, l'histoire du hêtre, la recolonisation par le hêtre ressemble à celle de l'Aulne. Et par contre, alors, en bas à droite, c'est le sapin pectiné. Alors, ça apporte une nouveauté, c'est qu'on a l'impression aussi qu'il y a eu un refuge pour lui. Il s'est réfugié dans le sud de la France. Hein. Il y a le refuge ibérique qui a fonctionné, le refuge italien, le refuge balkanique, et apparemment aussi un refuge dans le sud de la France. La dernière image que je voulais vous commenter, c'est une reconstitution beaucoup plus précise, récente, 2002 quand même, mais qui a été fondatrice. À partir des pollens, des cartes polliniques établies à l'échelle de l'Europe, ils ont reconstitué la recolonisation du territoire depuis l'Holocène, depuis le début de notre interglaciaire, jusqu'à l'extension maximale. Alors le début, c'est 14 millions d'années. Vous voyez à gauche, sur l'image de gauche, on voit 14, 12, 11, 10. Ce sont des le front vers le nord de ces espèces. Alors ces espèces, ça devait être, je pense, le chêne pédonculé, le chêne sessile, hein, chêne feuille caduque en tout cas. Il y a 14 000 ans, ils étaient confinés au sud de l'Espagne, au sud de l'Italie et à la Grèce. 12 000 ans, ils avaient gagné un peu vers le nord. Moins 11 000, ils étaient encore un peu plus au nord. 10 000 encore plus au nord, ils étaient à l'altitude de Bordeaux. Et faut passer sur la carte de droite, on voit que le maximum d'extension, qui est l'extension actuelle d'ailleurs, qui n'a pas bougé, elle s'est faite il y a 6 000 ans. C'était le sud, ils avaient atteint le sud de la Scandinavie. Les chaînes ont parcouru, ça c'est important, 28 000 km, c'est un décalement en latitude de 28 000 km qui s'est fait en 8 000 ans. Ça fait un déplacement de 35 km par siècle. Alors, ceci est à rapprocher. Alors évidemment, la vitesse de recolonisation va varier beaucoup d'une espèce à l'autre, hein, certainement pour des raisons multiples. On l'imagine volontiers. Mais n'empêche, ces chaînes-là, ces mêmes chaînes, si l'augmentation de la température est, mettons, de l'ordre de 3,5 degrés d'ici la fin du siècle, ça veut dire que dans moins d'un siècle, il faut savoir qu'il a été établi par les botanistes, notamment Paul Ozanda, que pour les latitudes moyennes, ce sont les nôtres, la température moyenne annuelle, qui régit donc les étages de végétation qui sont présents en France, la température moyenne annuelle décroît de 1,5 degré par 100 mètres d'élévation en altitude et 100 km d'élévation en latitude. Ce qui veut dire qu'avec 3,5 degrés, ça nous fera 600 km et 600 mètres d'ici la fin du siècle. Les chaînes qui ont mis en un siècle ont parcouru spontanément 35 km pour accompagner le réchauffement post-glaciaire jusqu'à maintenant. On va leur demander, pour être en équilibre climatiquement, de parcourir beaucoup plus en beaucoup moins de temps.